rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la poubelle.
Voilà donc 19h à la pendule de la plus rebelle des radios. On m'entend presque pas, alors je sais pas pourquoi. Donc 19h à la pendule de la plus rebelle des radios, voilà, le son est bien meilleur. Il est l'heure du Canu Info. Alors maintenant c'est 19h16 secondes, hein, le temps que je me reprenne une deuxième fois. Donc pour ce Canu Info du jeudi 3 mai 2018, avec comme d'habitude l'équipe du jeudi, c'est-à-dire Delphine.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Laurent.
Donc bonsoir Delphine, et nous allons aborder plein de choses dans ce Canu Info. Je vais commencer en parlant d'Edouard Philippe. Alors je ne sais pas si vous savez, mais c'est notre Premier ministre, il paraît. Donc bien évidemment, notre Premier ministre a dénoncé les violences qui ont eu lieu et les dégradations qui ont eu lieu lors de la manifestation du 1er mai à Paris, notamment contre la concession Renault qui a été vandalisée. Il a dit d'ailleurs ensuite, j'espère que tous ceux qui se sont rendus coupables de ces actes seront sévèrement punis. Voilà la parole de M. Edouard Philippe. Alors bizarrement, Renault est encore en plein dans l'actualité, et pas simplement à travers la concession qui a été un petit peu attaquée, vandalisée, mais avec toujours le même genre d'affaires. Ainsi, il y a quelques jours, le 30 de mémoire, on apprenait que Renault avait pris énormément de retard sur la mise aux normes de ses véhicules. Sur les 1,3 million de voitures que le constructeur entendait transformer pour limiter les émissions d'oxyde d'azote, un truc un peu toxique, on va dire, la Renault n'en a effectivement mis à jour aujourd'hui que 5%. Alors Renault assure que c'est un démarrage un peu lent, mais que le rythme va s'accélérer d'ici 2020. Ainsi, dans une note que l'entreprise a transmise au ministère de l'Environnement, les estimations annoncent 25% des véhicules Renault modifiés d'ici 2018, 50% d'ici 2019 et 90% d'ici mi-2020. On rappelle que c'est en avril 2016, quelques mois après le Dieselgate, que Renault avait assuré vouloir limiter les émissions de polluants. L'idée, c'était de reprogrammer les voitures via une mise à jour logicielle. Les véhicules concernés émettraient alors moins de polluants. Du coup, Renault avouait à cette époque-là qu'il n'avait pas vraiment optimisé ses voitures, en tout cas du point de vue de la pollution bien évidemment, alors que les essais officiels donnaient des mesures bien plus faibles que les mesures effectuées sur les modèles réellement vendus. Pendant ce temps, Volkswagen, qui est à l'origine du Dieselgate, et qui a réagi quand même nettement mieux que Renault, a mis à jour, alors au jour d'aujourd'hui, 95% de ces véhicules, et ça concerne 2,25 millions de véhicules immatriculés concernés par la tricherie de Volkswagen et vraisemblablement des autres, hein, puisque c'est pas les seuls. On a aussi appris, grâce à un rapport de la DGCCRF, la Direction Générale, enfin, bon, de ceux qui trichent là dans le capitalisme, que des mesures récentes ont montré que la Renault Captur diesel dépasse de 377% le seuil réglementaire d'émission de CO2. Pas mal. La Clio de 305%. Et il y en a plein d'autres comme ça. Il semble donc que Renault, comme beaucoup d'autres constructeurs, ait bien triché et sur les normes, en tout cas lors de l'enregistrement officielle, et qu'elle vend donc, alors on rappelle quand même je sais plus où j'en suis, n'a donc triché et n'a donc pas respecté les normes. Les conséquences on les connaît, hein, une dizaine minimum de morts auraient pu être évitées, c'est un chiffre minime, si Renault et les autres constructeurs avaient respecté les normes en fait. Donc en fait quand Renault triche, Renault vend des voitures plus polluantes avec des conséquences, des morts à la clé. Le chiffre officiel, c'est 48 000 morts par an, actuel. Si Renault et les autres avaient respecté les normes, on en aurait peut-être 10, 20, 100, 1000 de moins. Allez savoir, on ne sait pas. En tout cas, on sait que quand on dépasse de 305% sur certaines mesures, on imagine bien qu'on peut faire baisser la mortalité. Bref, devant ces morts supplémentaires, parce que Renault, comme les autres, ne respecte pas les normes, il y a bizarrement un immense silence d'Edouard Philippe. Aucune condamnation d'aucune sorte. Par contre, là, des manifestants s'en prennent à une concession Renault, donc qui vend des choses qui tuent, sans faire de blessés, bien évidemment, on ne casse que le matériel. Là, monsieur Edouard Philippe réagit. Bref, on notera bien évidemment que le patron de Renault n'a pas été mis en examen pour sa tricherie et pour les morts associées à sa tricherie, n'est pas passé par la case garde à vue, contrairement à ces dizaines voire centaines de black blocs, comme ils les appellent, parisiens, arrêtés lors de la manif du 1er mai. Bref, le Premier ministre confirme donc que le patronat a le droit de faire mourir les gens. Par contre, ces mêmes gens, ceux qui ne sont pas morts en tout cas, n'ont pas le droit de toucher aux criminels Renault. Ça, vous l'avez bien compris. Alors bien évidemment, la violence n'est pas forcément la solution de réaction face à la violence sociale. Enfin, si vous avez une solution efficace contre la violence sociale qui est mise en œuvre par le patronat et le gouvernement, moi je suis preneur d'une solution. Car, force est de constater que ces dernières années, la violence sociale, qu'elle soit due donc, comme je l'ai dit, à l'État ou au patronat, puisque les deux engendrent de la violence sociale, n'a fait qu'augmenter ces dernières années, avait des conséquences importantes sur la vie de centaines de milliers de personnes, sans que les oppositions non violentes traditionnelles, donc on pense aux mobilisations classiques, aux manifestations, aux grèves, n'aient vraiment permis d'amélioration globale. Du coup, que reste-t-il pour réagir contre cette violence sociale d'État ou du patronat ? Eh bien, je vous laisse répondre de par vous-même. Pour finir avec ce 1er mai de lutte, on se demande à qui pense Edouard Philippe lorsqu'il annonce la possibilité de demander la dissolution d'associations pour éviter de nouvelles violences. Du même côté, de son côté d'ailleurs, l'autoritaire, voire fasciste Gérard Collomb, annonce être à la recherche des organisateurs. On a l'impression qu'ils connaissent pas bien les gens qui sont intervenus, qui ont fait ces actions. Ces soi-disant black blocs, là, enfin, ils sont pas tous habillés en noir avec des capuches, bizarrement. En tout cas, même si c'est la majorité. Eh ben, en général, ils sont pas issus d'un mouvement officiel déclaré en association qui aurait décidé dans une assemblée générale, en votant, de dire oui, on va attaquer tel truc. C'est quelque chose de beaucoup plus flou que ça, c'est plus, c'est moins officiel que ça, c'est rarement au nom d'une association qu'on fait ce genre de violence, ce sont plutôt des gens qui se montent en collectif ou des choses plutôt affinitaires, et on voit mal une association officielle, hein, même des gros anards, disent-ils, la Fédération anarchiste, appelée à casser des choses pendant la manif du 1er mai. Donc on a l'impression quand même que Gérard Collomb et le Premier ministre Edouard Philippe Ils comprennent pas tout ce que c'est que ces gens qui sont devant dans les manifestations ou qui sont à Notre-Dame-des-Landes. Enfin voilà, toute cette frange là qu'ils appellent les Black Blocs et qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas. En même temps, normal, ils sont issus de groupes de droite, de politiques installés dans le business. Alors bon, bref. Ça m'a surtout fait marrer d'entendre Gérard Collomb parler des organisateurs. Voilà. Alors, ceci dit, pendant ce temps, et pendant que ces deux donneurs de leçons et les autres nous font la morale en disant que c'est mal de ne pas respecter la loi, eh bien, ils sont pris la main dans le sac, puisque eux non plus ne respectent pas la loi. Ainsi, c'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Alors, c'est un truc officiel de l'État, hein, donc c'est pas moi qui l'invente, c'est pas un groupe d'anarchistes, de toto, de tout ce que vous voulez. Non, c'est bien la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques qui a relevé, je cite, des dépenses sous-évaluées, donc mal déclarées, donc de la malhonnêteté, à hauteur de 208 984 euros concernant la campagne d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc ils ont triché en déclarant, en sous-déclarant une partie de leurs frais de campagne. Je ne vous parle pas des accointances avec GL Events, cette entreprise lyonnaise très amie de Gérard Collomb, hein, qui a fait don de plein de choses. Bon, bref, on attendrait une condamnation de Gérard Collomb, de Macron, pour ses tricheries sur les comptes de campagne. Bon, voilà, je vais vous donner une news. A priori, aucune condamnation n'est prévue contre ces tricheurs-là, bien évidemment. Ils ne respectent pas les lois, mais eux, ils sont à l'abri de ce genre de poursuites, contrairement à d'autres qui ne respecteraient pas les lois. Bon, bref, cet édito étant fini, je vous annonce le programme de ce Canu Info du 3 mai.
Moi, je voulais juste saluer les gros anards donc, de la Fédération anarchiste qui sont très contents qu'on parle d'eux. C'est marrant, cette expression que tu as employée. Voilà, ça m'a fait rire.
Bon, bref, nous allons parler des Corées, de Palestine, d'Arménie, de Macronie, encore une fois, des profiteurs, j'ai des amis de Macron, les profiteurs aussi, d'énergie et environnement, et de téléchargement et de streaming. Nous commençons par les deux Corées.
Oui, juste pour dire que donc on va pas plus revenir sur ce qui s'est passé ici à Lyon pour le 1er mai. Pour rappel, si vous lisez pas la presse lyonnaise ou si vous n'allez pas sur Rebellion, il y a eu une belle manif, en particulier une manif rouge et noire entre la place Bellecour et la place Satonnet pour rejoindre donc l'appel du repas de quartier de Radio Canu. C'est très chouette. On a marché vite parce que nous étions très encadrés. C'est encore une manifestation sous surveillance. Et puis tout s'est pas si bien terminé malheureusement sous la grisaille lyonnaise, puisque on a été accompagné jusqu'à la place Satonnet, mais la police, les CRS, les Robocops sont restés. Et puis à un moment, il y a eu un appel à récupérer une personne qui s'était fait arrêter. Et là, ça a pas plu qu'il y ait une envie de grouper, de se déplacer. Pourtant, c'était a priori festif au début comme approche.
Oui, il y avait de la musique et tout. Hein,
mais ça a énervé, on le sentait bien. Donc, il y a un moment, ils s'étaient déshabillés, ils se sont un peu rhabillés quand ils avaient vu le mouvement. Et puis, il y a eu des gaz qui ont été lancés sur une des rues à côté. Mais en fait, c'est la place Satonnet, c'est tout le même quartier.
En fait, c'est ça, ils ont visé d'abord, a priori, ces militants qui allaient.
Ou enfin, les gens, parce qu'il y avait.
Les gens, voilà. Mais ils ont surtout gazé la place Satonnet. Avec les familles, les enfants qui étaient là, tout ça.
Imaginez-vous si vous n'étiez pas là, mais vous êtes avec votre petit, votre poussette. Et donc, il faut sauver la poussette à 500 euros et votre enfant, bien évidemment. Voilà, l'enfant qui se retrouve aussi quand il est un peu plus grand au milieu des gaz, c'est jamais sympa, surtout quand on vient l'esprit un peu libre sur la place Satonnet, comme chaque année pour le 1er mai.
Mais vraisemblablement, pour ces CRS, les enfants de 1, 2, 3, 4, 5 ans, ce sont de futurs criminels, donc il faut leur balancer des gaz lacrymogènes.
Comme ça, c'est bien, on les prépare tôt à la révolution. Voilà, et puis évidemment que la nouvelle visite au bastion social, rien ne s'arrête.
Non, il faut continuer la lutte.
Ah ben voilà, bon, c'était juste pour dire ça.
On commence avec les Corées, là.
Et oui, donc c'est à moi. Donc je vous ai dit la semaine dernière que messieurs Kim et Moon devaient se rencontrer vendredi dernier, chose qui a donc été faite. Alors, on va déjà revenir au lundi 23 avril, si vous voulez bien. Vous le savez, très certainement, il y a des haut-parleurs le long de la frontière. La Corée du Sud fait de la propagande. Vous savez qu'il y a aussi des lâchers de petits papiers au-dessus de la Corée du Nord, qui sont des fois organisés par des organisations et des associations sud-coréennes. Et ben là, les haut-parleurs se sont tus, donc à l'approche de ce sommet inter-Corée. L'idée, a priori, c'était d'apaiser les tensions et de créer un climat de paix. Donc la propagande s'est calmée de ce côté depuis donc le lundi 23 et vendredi 27, les deux parties nord et sud se sont rencontrées. Je vous rappelle que la Corée du Nord, par la voix de M. Kim, a annoncé la fin des essais nucléaires et des tests missiles intercontinentaux et la fermeture de son usine, de son site nucléaire dont tu avais parlé.
Celui qui s'est écroulé, oui.
Voilà, la semaine dernière, dans la partie nucléaire. Pas du tout dans la partie internationale. Alors, les deux, Kim et Moon, se sont retrouvés donc sur la DMZ, hein, la zone démilitarisée, dans le village aux Maisons Bleues que tout le monde connaît, tout le monde a les images de cet endroit en tête. Je vous rappelle que, en vrai, les Corées sont toujours en guerre, hein, il n'y a pas de traité de paix, il y a un armistice, donc c'est pour ça qu'il y a aussi une tension supplémentaire. Alors ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu un tel sommet, et pour tout vous dire, c'est la première fois qu'un dirigeant du Nord traversait au Sud. Et c'est donc Kim Number 3 qui l'a fait.
Ouais, alors ils ont fait le petit sketch, puisqu'il a traversé, il a eu l'autre, Moon lui a dit bienvenue en Corée du Sud, et l'autre il lui a dit bah, quand vous voulez, vous venez en Corée du Nord, et il a traversé symboliquement, il a mis le pied de l'autre côté.
Voilà, ils ont fait demi-tour.
Alors, vous savez, alors, c'est la première fois que c'est un peu drôle quand même. Parce qu'il... Enfin non, il y a eu quelques fois des rapprochements, c'est le plus drôle.
Il faut savoir qu'il y a, vous avez donc un trait hein, au sol.
Qui fait 15 cm.
Voilà, blanc, et puis vous avez un bloc de béton au milieu. Et donc c'est ce petit truc que ces dirigeants de pays ont donc décidé de sauter à côte, saute mouton, j'exagère un petit peu. Mais enfin voilà, il y a eu un petit moment effectivement où on avait un petit peu de la détente. Alors l'idée là de cette rencontre, c'est de préparer celle qui va avoir lieu entre messieurs Kim et Trump bientôt, hein, l'histoire de continuer dans la paix. En tout cas, c'est l'idée de Monsieur Moon, le président de la Corée du Sud. Alors, ils se sont dirigés, non pas dans la petite maison bleue, mais dans la maison de la paix, qui est le truc en béton
en face,
côté sud. Hein, donc, Monsieur Kim s'est bien rendu côté sud. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ce truc-là, mais messieurs Kim et Moon ont planté un arbre.
C'est l'arbre de la paix.
Oui, mais alors, Trump et Macron, ils ont planté un arbre aussi.
Oui, il a été enlevé le lendemain.
L'homme viril aime planter de l'arbre. Ça, ouais, c'est un truc quand même dans la diplomatie pour marquer et célébrer une paix potentielle. Alors, du côté du Nord, il y avait donc Monsieur Kim, il y avait la sœur Kim Yo-young, qui était là aussi pour l'accompagner. Alors, vous êtes peut-être nombreux et nombreuses à avoir vu cette image où la voiture du chef du Nord avance et elle est entourée par cette douzaine de gardes du corps qui courent à côté comme ça. Ça fait un petit peu marrer tout le monde parce que c'est très protocolaire bien évidemment. Et puis tout le monde s'attendait à avoir les petites choses en provenance du Nord comme étant typiques. Bon, moi j'ai surtout vu deux hommes à un moment assis sur un banc en train de boire un verre d'eau.
Attends, il a amené des nouilles froides de Pyongyang.
Oui. Alors il y a plein de petites anecdotes comme ça qu'on on va passer, parce que parfois c'est un petit peu comique, comment le Nord reste quand même très sur la défensive, hein, c'est-à-dire qu'ils sont retournés manger au Nord. Hein.
Oui.
On craint l'empoisonnement quand même, quelque part.
Non.
pour aller rebouffer de l'autre côté, excuse-moi, un moment, quoi, quand même. Alors bon, il y a eu des célébrations, un truc d'adieu et tout, et l'idée pour le Nord et le Sud, c'est d'aller vers quelque chose de calme, c'est-à-dire peut-être démilitariser la péninsule.
Ouais, mais alors, en tout cas, le jeu de Kim Jong-un n'est pas clair du tout.
Ah bah
parce
non.
Que, bien évidemment, il remet pas en cause le système, la dictature communiste, il est hors de question de la remettre en cause. Du coup, on sait pas jusqu'où il peut aller dans l'ouverture. Parce que s'il y a de l'ouverture, à un moment, le système, il va tomber. La dictature communiste tient pas face à une démocratie libérale. C'est compliqué. Et on sait pas à quel moment il va bloquer les choses. On sait pas à quel jeu il joue, en fait. Là, il a l'air sympa. Pas tout ça, il fait des blagues, mais c'est quand même un peu bizarre son attitude.
Alors la question c'est si, de savoir par exemple si Monsieur Moon, le président du Sud, a posé des questions sur des sujets précis, comme la situation des trois détenus qui viennent des États-Unis d'Amérique, qui se trouvent en Corée du Nord et que Monsieur Trump met sur la table comme un nécessité pour que le sommet entre Kim et Trump puisse avoir lieu. Alors, il y aurait eu, là, ces derniers jours, peut-être une avancée, ils auraient été transférés, ce qui voudrait dire que peut-être, avec ce déplacement, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une libération prochaine. Il s'agit d'un pasteur qui s'appelle Kim Dong-chul. Lui, il a été arrêté et condamné pour espionnage à 10 ans de travaux forcés, c'est en 2016. Et puis, les deux autres sont Kim Song et Kim Song-duk, qui travaillaient pour l'Université des sciences et de la technologie de Pyongyang. C'est un lieu créé par des chrétiens évangéliques. Donc là, ils ont été arrêtés pour agissement hostile. Donc là, c'est très la religion hein, qui est largement visée. Mais en même temps, il y a toujours le risque que ce soit des espions. Donc la Corée du Nord a même emprisonné les étrangers. Parfois, il faut quand même largement s'en souvenir. Donc ça, on se demande si effectivement ça a été abordé. Et puis, ce qui était intéressant, moi j'ai trouvé aussi, c'était de regarder les médias sud-coréens. Alors évidemment pas toujours avec la traduction, c'est pas possible, mais l'idée au moins de voir comment, vous savez, l'image raconte quand même beaucoup de choses, de voir ces attroupements devant les télévisions en Corée du Sud, à Séoul ou à Busan par exemple, qui sont des grosses villes, des grosses mégalopoles, le gros son enlève ça fait redondance, mais mégalopoles dans lesquelles les gens attendaient beaucoup de cette rencontre, de savoir ce qui allait se raconter avec parfois de la critique hein, voilà. Mais ça ne concerne pas forcément toutes les générations, parce que pour les plus jeunes, la Corée du Nord,
ils
s'en fichent. Ouais. Ils ont toujours connu ça, les étudiants et les étudiantes. Donc...
Et puis ils ne sont pas très motivés pour une réunification.
Et c'est le gros fond du problème, ouais. C'est qu'il y a des articles là, qui disent est-ce le début d'une réunification ? Alors d'abord, comme tu le disais tout à l'heure, Kim, il ne va pas lâcher son petit pays hein, et sa dictature. Ouais. Alors là, il ne faut pas rêver. Et puis au sud, il y a quand même une partie de la population qui ne souhaite pas cette réunification. Déjà, il faut savoir que les Nord-Coréens qui vivent aujourd'hui au sud sont beaucoup discriminés. Se retrouvent beaucoup au chômage, ils sont perçus comme étant les campagnards qui savent rien faire.
En général, ils sont arrêtés, ils font de la prison d'abord parce qu'on les considère comme des
même sans la prison, ils sont mis quand même dans l'interrogatoire. Il y a quand même une latence, si vous voulez, un moment quand même un petit peu dur, je pense, à vivre entre le moment où on vous remet dans la vie civile et puis le moment où vous mettez le pied au sud. Donc voilà, il y a une situation qui est compliquée. La réunification, beaucoup de Coréens, de Sud-Coréens et de Sud-Coréennes n'en ont pas du tout envie pour des raisons économiques et puis pour une espèce de xénophobie assez importante quand même sur ces gens du Nord. Ouais. Qui se sont développés parallèlement et avec des gros écarts de culture aujourd'hui. Même, vous savez, il y a des écarts même dans la langue. Mais grande avancée, il paraît que la Corée du Nord donc, va repasser aux mêmes heures que la Corée du Sud, ce qui est un signe encore diplomatique de la paix quand même. Non.
Et Moon, donc le président sud-coréen, est allé plus loin que ça, il n'a pas parlé que de la Corée, il a aussi parlé du Japon, des prisonniers japonais, des enlevés là japonais. Donc il y a pas mal de sujets sur la table, et si ça avance un peu et que ça va jusqu'au bout, effectivement ça peut être une avancée importante pour la région et pas simplement pour la Corée du Sud et la Corée du Nord en fait.
Ah non, mais ça va de toute façon jusqu'aux États-Unis, donc il faut que monsieur Abe soit lui peut-être aussi de son côté. Il a des propos toujours très durs, mais lui il continue à être dans son rôle conservateur, nationaliste et agissant de manière brutale avec la Corée du Nord. Monsieur Moon, lui, il est élu aussi sur cette idée qu'il peut amener le discours, la négociation, la diplomatie. Très clairement, voilà, monsieur Trump est encore, lui, alors là c'est un cas à part, encore dans cette négociation. Éviter la guerre.
Monsieur Moon étant un progressiste, hein, on peut quand même le dire.
Voilà.
Alors on va parler de Palestine un petit peu, puisque nous avons appris, je vais citer la phrase de monsieur Mahmoud Abbas, donc qui est président, on le rappelle, de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire de ce qui sert de Palestine en Cisjordanie. Là. Il a dit « Les Juifs ont été victimes de la Shoah, non pas à cause de leur religion et de l'antisémitisme, mais à cause de leur attitude sociale ». Donc, quand on dit ça, déjà, c'est super mal parti. Donc, il s'exprimait devant le Conseil national palestinien, qui était réuni en session régulière pour la première fois depuis 1996. Donc, il a repris, grosso modo, dans son discours, pas mal de théories complotistes antisémites, hein, qui traînent pas mal dans le monde arabe et ailleurs aussi. Hein. Il a notamment pointé les intellectuels juifs askénazes, c'est les juifs d'Europe de l'Est, hein, qui sont majoritaires hein, en Israël. Et donc, il a rappelé, enfin, il a dit, ce qui est totalement faux, hein, que les pogroms qui avaient eu lieu, il n'y avait pas eu de pogroms, en fait, dans les communautés juives, dans les pays arabes, à l'époque. Il laissait entendre qu'en fait, les juifs askénazes, ils ne sont pas descendants des juifs, des fameux tribus juives qui sont partis, pas qui seraient, qui sont partis d'Israël, qui laissent entendre que ce ne sont pas des, des juifs locaux, en fait, et que les Arabes, là-bas, n'ont pas été du tout méchants avec les juifs à cette époque-là. Alors, c'est quand même très, très faux, on peut quand même le dire. Il est allé très très loin. Alors c'est des théories qui traînent dans le monde arabe, notamment. Il y a un auteur révisionniste qui a pas mal écrit sur ces Ashkénazes qui seraient pas descendants des juifs historiques issus de la Palestine de l'époque, quand ils sont partis, etc. Alors c'est relativement, c'est faux ces théories là. Les juifs Ashkénazes sont bien issus de ces peuples là. Alors génétiquement, quand il y a eu des études, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des juifs qui sont pas, qui ont pas le lien génétique avec les autres juifs de la région, mais ils sont pas majoritaires, et c'est parce que à un moment, les juifs ont judéifié dans les endroits où ils étaient, et du coup, on a une mixité génétique qui peut exister, mais qui est faible et qui est pas représentative de l'ensemble de ces juifs ashkénazes ou séfarades, etc. Il y a quand même une vraie histoire du peuple juif qui est parti il y a presque 2000 ans. Donc remettre ça en cause, c'est quand même très très grave. C'est faux scientifiquement, puisque c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une minorité de juifs qui sont un peu différents génétiquement des autres. Donc il y a une vraie volonté de remettre en cause l'histoire de ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, il a ensuite, parce qu'il est allé très loin quand même, Mahmoud Abbas, estimé qu'Adolf Hitler, donc on rappelle, Hitler, il a fait quand même tuer 6 millions de juifs, et d'autres personnes, mais c'est quand même 6 millions de juifs, Hitler avait facilité l'immigration des juifs en Israël grâce à un accord conclu avec une banque qui s'appelle la Palestine Company, qui s'appelle aujourd'hui Banque Lemi, et qui aurait permis aux juifs de se rendre en Palestine et de transférer tous leurs biens via cette fameuse banque de l'époque. Donc il a laissé entendre qu'Hitler avait permis l'installation des juifs en Israël. Alors c'est pareil, donc ces raccourcis historiques font mal quand même à tout le monde, un peu, notamment à la vérité. On rappellera quand même que le grand mufti de Jérusalem a beaucoup collaboré avec Hitler. Alors, il y a quelques semaines, Benjamin Netanyahou a fait son révisionniste aussi en racontant des bêtises sur le grand mufti de Jérusalem. C'est pas lui qui a ordonné à Hitler de tuer les juifs. Hitler avait déjà ce projet-là. Par contre, il a bien collaboré avec Hitler, le grand mufti de Jérusalem, dans l'idée, lui, parce qu'il était d'accord avec ça, de faire tuer les juifs. Il en est pas à l'origine, mais il était bien content qu'Hitler le fasse. Donc, il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. Le grand mufti de Jérusalem, donc, était le représentant des musulmans de cette région-là. Il était bien d'accord avec Hitler, il a bien collaboré avec Hitler, donc on ne va pas non plus raconter n'importe quoi ce que fait en ce moment Mahmoud Abbas. Donc, tenir publiquement ses propos négationnistes, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, puisqu'il y a au sein de l'autorité palestinienne vraisemblablement un courant comme ça, révisionniste assez fort, qu'il n'y a pas de lutte interne pour revenir sur ces idées-là. Alors, il est allé plus loin que ça, c'est pas la première, je l'ai rappelé parce que c'était déjà sorti dans certains propos de Mahmoud Abbas plusieurs fois. Il a dit que la création de l'État hébreu était un projet colonial qui n'avait rien à voir avec les juifs, mais que c'était un projet européen pour installer des intérêts dans la région. Alors, même si l'Europe s'est bien servie de l'installation, effectivement, de cette tête de pont un peu occidentalisée là-bas, mais c'est faux, c'est avant tout un projet juif qui cherchait un endroit où réinstaller, où se réinstaller après toutes les massacres, les pogroms, les assassinats, tout ce qu'ils avaient vécu un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, et que même si on est d'accord, c'est un projet colonial, c'est bien un projet colonial de réinstallation de juifs dans cet endroit-là du monde. Ça aurait pu se faire peut-être autrement, mais en tout cas ça s'est fait comme ça. Donc dire que c'était pas dans ce but-là, c'est là aussi une négation. Alors, suite à tous ces propos révisionnistes qu'il a pu tenir sur les juifs, sur Hitler, sur les Ashkénazes, etc., ça a énervé un petit peu du monde. L'Union européenne a condamné officiellement, l'ONU a condamné aussi officiellement. Bon, nous, la question qui reste, bon, c'est quand que les Palestiniens vont se débarrasser de Mahmoud Abbas ? Parce que il est quand même pas très légitime au sein de l'autorité palestinienne, il est pas même au sein de l'OLP, non, il doit pas être membre de l'OLP, au sein de l'organisation du Fatah, voilà, cherchez. Il est pas vraiment non plus très légitime, en tout cas, il y a plus beaucoup de la population qui plus beaucoup une partie de la population qui le soutient. Donc voilà. Alors, il se fait porte-parole de cet antisémitisme qui est, on le rappelle, très implanté dans les pays arabes. Hein, alors il y a une tradition qui est liée déjà au passage antisémite qui sont présents dans le courant, mais ça c'est pas la majorité. En fait, il y a une propagande antisémite qui est véhiculée par les militants et par des dirigeants palestiniens depuis déjà pas mal de temps. Ça refait surface de manière importante. On rappelle quand même, pour être allé dans ces pays-là, qu'on trouve le protocole des sages de Sion. Donc un livre antisémite qui imagine et qui affirme en fait qu'il y a un complot juif mondial pour diriger le monde. Ce livre, donc, qui est totalement inventé, qui raconte un truc qui n'a pas existé, on le trouve en Palestine, on le trouve en Jordanie, on le trouve dans certains pays arabes. Hein, donc il y a un vrai problème avec l'antisémitisme dans ces pays-là. Et c'est bien dommage pour la lutte des droits des Palestiniens, puisque ça discrédite une fois de plus leurs dirigeants. Alors le Hamas était déjà pas mal antisémite. Là maintenant que Mahmoud Abbas, une nouvelle fois, c'était pas la première fois, mais d'habitude c'est moins flagrant, refait sortir son antisémitisme, on se dit, bah merde, moi j'ai pas trouvé d'autres mots, on est bien embêté là, parce que on est bien pour que le peuple palestinien puisse vivre tranquille sur ses terres, dans un truc qui fonctionnerait bien. Alors on sait pas, un état binational, deux états, etc. Bon, bref, c'est à eux aussi de décider. Mais là, avec ça, on va pas soutenir Mahmoud Abbas très longtemps. Il est révisionniste. Face à lui, il a un Netanyahou qui est ultra-autoritaire et qui est lui aussi à sa manière révisionniste. Hein, il s'est fait, j'en ai reparlé là, ce qu'il a raconté sur le Moufti de Jérusalem qui était pas vraiment juste non plus. Ça semble mal parti, donc s'ils font des concours de bêtises, de fascisme et de révisionnistes, on ne sait pas bien ce qui va rester là-bas. Si, ce qui va rester, c'est qu'à la fin, Israël gagne, puisqu'ils ont les armes, ils ont la force, ils ont le soutien de pas mal de monde. C'est quand même triste de voir Mahmoud Abbas sortir de tels propos. On soutient quand même toujours et encore le peuple palestinien, mais là, pas leurs dirigeants en tout cas. Les dirigeants qui n'ont pas été élus, hein, il n'a pas été élu, puisqu'il n'y a plus d'élections depuis déjà longtemps, on les attend, hein, pour voir ce qui pourrait en sortir.
Autre endroit du monde, autre élection, on va reparler de ce qui se passe en Arménie. Alors, mardi, je vous avais dit que ce 1er mai serait le jour du vote pour élire un Premier ministre, que l'opposant Nicole Pachignan s'était proposé. Volontairement, la main sur le cœur.
Alors, lui, il ne représente pas grand-chose électoralement jusqu'à maintenant, mais c'est lui qui a fait sortir les gens dans la rue.
Alors, c'est ça qui... En fait, ce qu'il faut voir avec Nicole Pachignan, c'est que c'est un journaliste. Ensuite, c'est un militant politique, comme il y en a beaucoup dans beaucoup de pays qui peuvent à peu près avoir une démocratie. C'est un opposant face à des conservateurs, il est plutôt dit de gauche.
Oui, parce qu'il défend une vraie démocratie sans influence russe.
Mais son discours, pour l'instant, pourrait... son discours rassemble, c'est contre la corruption et contre les tours de passe-passe à quels s'adonnent fréquemment les politiques déjà en place. Donc c'est sur ça qu'il a réussi à rassembler des gens qui vont le soutenir pendant les élections, puis des gens qui ne vont pas le soutenir forcément parce qu'ils ont d'autres idées politiques, mais qui sont quand même descendus dans la rue parce qu'il y a un mouvement de masse et de foule pour faire changer les choses. Mais quand on analyse bien son truc, il n'a pas de programme, hein, lui, pour l'instant. Écoute, hein, il va devenir Premier ministre dans un contexte de mise à la rue du précédent. Enfin, c'est quand même quelque chose de particulier.
Il est quand même arrivé à faire virer l'ancien Premier ministre qui était président, qui a fait un truc à la Poutine.
Hein,
il était président de la République et il a tout fait pour devenir Premier ministre, pour garder le pouvoir et faire exactement
ce que
Poutine
avait fait.
C'est ce que
j'appelle le tour de passe-passe.
Voilà. Et il est arrivé, donc cet opposant, à faire tomber ça. Et c'est incroyable, parce qu'on, même avec les gens qui descendaient dans la rue, on se disait ça allait faire comme en Russie. Sauf que non, l'Arménie, c'est pas la Russie. C'est moins, finalement, le côté autoritaire est moins fort quand même.
Alors,
ce qui n'était pas évident.
Non, ouais, mardi, donc, 1er mai, Nicole Pachinan a tenté de se faire élire par le Parlement. Ça n'a donc pas fonctionné. Il n'a pas eu assez de voix de son côté. Alors, apparemment, hein, je ne parle pas arménien, donc je n'ai pas écouté en direct les médias locaux. Mais ce que j'ai pu lire dans les traductions de tout ça, c'est que ça a duré longtemps. Face à ses juges, pardonnez-moi l'expression, mais c'était un peu ça. Ils s'en est pris un peu plein la figure, pour être tout à fait poli. Ça n'a pas été simple, hein. Donc il est sorti mardi, hop, les gens se sont remis dans la rue. Et puis, y a donc un rendez-vous qui est donné pour le 8 mai prochain, la semaine prochaine. Donc il va y avoir une nouvelle fois un vote au Parlement. Alors là, si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir petite dissolution.
Hein, et élections
rapides, anticipées, très rapides, hein, ouais. Qui doivent suivre dans un mois et demi plus tard, quelque chose comme ça. Mais, on a appris que le Parti Républicain, donc celui de M. Sassi-Kian, a décidé de ne pas représenter son candidat, puisque même ce candidat-là n'a pas réussi à obtenir assez de voix. C'est un peu le bazar, hein, il faut quand même le dire. Donc, pas de candidat chez...
Ça veut dire qu'il pourrait gagner, quoi.
Oui. Il pourrait.
L'opposant pourrait gagner.
Et oui. Donc c'est pour ça que pour l'instant, Nicole Pachinon, il a demandé à tout le monde de rentrer à la maison, en attendant le 8 mai, globalement. Là, par contre, si le 8 mai, ça marche pas, je vous dis pas en Arménie, ça avec l'explosion. Parce que là, il faut bien se rendre compte quand même que c'était bloqué, hein, à Erevan.
Oui.
Pas de train, pas de transport, des magasins fermés, une grève, une vraie.
Général,
un truc
quoi,
où on bloque, voilà. Et puis, comme ils se sont fait quand même eux aussi pas mal tabasser, hein, les militants, les militantes, les gens de la rue, citoyens, citoyennes, comme on dit, ils ont aussi appris à s'organiser, à donc à se répartir, à faire des actions. Enfin, tout ça, c'est quand même mis en place assez vite, finalement, puisque ça, c'est assez récent, hein, c'est quelques mi-avril, hein, quand même, le début de cette mobilisation et de ces manifestations. Donc, il pourrait passer, beaucoup l'espèrent, parce que ça permettrait de mettre fin à cette crise politique, comme on dit aussi. On parle souvent de crise politique. En tout cas, là, du fait que ben il y a pas de chef, hein, vraiment, que c'est un peu le bazar, et puis qu'il y a des gens qui ont envie qu'il y ait des changements en Arménie, qu'il y ait la fin de la corruption, qu'il y ait une démocratie qui se mette en place, et que les voleurs s'arrêtent, en fait, tout simplement, qu'il n'y ait pas des profiteurs et des profiteuses qui prennent la place de la démocratie, le droit à l'expression, et puis il y a un chômage très important, on en discutait la dernière fois. Donc il y a aussi des gens qui espèrent beaucoup, peut-être un peu trop, de Nicole Pachinian si jamais il gagnait, parce que comme je vous le disais, il n'a pas vraiment de programme et que ça ne va pas être si simple, mais enfin, il paraît que c'est une révolution de velours.
Voilà, retour en Macronie maintenant, puisque dans un entretien au magazine américain Forbes, en tout cas pour les, où ça parle des riches et du business, juste avant le voyage donc du président de la République, Monsieur Macron, il a annoncé qu'il comptait supprimer dès l'an prochain l'impôt sur les plus-values mobilières, ça s'appelle comme ça, c'est pas immobilière, hein, c'est mobilière, qui touche donc sous certaines conditions les contribuables français les plus riches, donc pas vous et moi, qui partent s'installer à l'étranger. Alors on appelle ça l'exit taxe. Donc là, en anglais, ça veut dire la taxe de sortie du territoire, enfin pour ceux qui sont sortis du territoire. Donc ça avait été remis au goût du jour par la droite, hein, cette taxe, donc recréée en 2011 sous Sarkozy, et ça avait été durci par la gauche en 2013, avec pour objectif principal d'empêcher un entrepreneur ou un titulaire d'un gros portefeuille, notamment d'actions, de choisir l'étranger pour profiter des systèmes fiscaux plus cléments au moment de la vente de son entreprise ou de la vente des titres qu'il possède. Hein, on sait qu'il y a, par exemple, la Belgique, il y a un paradis fiscal sur ce côté-là, hein, où il n'y a pas de taxes. Donc aujourd'hui, hein, lorsqu'une personne réside depuis moins de 6 ans dans l'Hexagone, donc ici, qui part s'installer hors des frontières, elle reste redevable, donc le taux il est de 30%, des plus-values dites mobilières réalisées en France. Ça évite l'évasion fiscale, finalement, c'est ça le but, hein, c'est que l'impôt rentre pour ces gens qui partiraient une fois qu'ils ont gagné de l'argent en France et qui partiraient avec leur entreprise, leur argent, etc. Alors d'après M. Macron, libéral, on pourrait dire que c'est un intégriste libéral un peu, M. Macron, c'est une grave erreur. Et comme d'habitude, il dit c'est pour nos start-up, parce que nombre d'entre elles, quand ils considéraient la France comme moins attractive, sont partis à l'étranger. Et donc c'est pour éviter cet impôt et Et donc, c'est pas logique que les entreprises partent pour éviter cet impôt. Alors, c'est un peu, il annonce pas de chiffres quand il dit qu'il y a des startups qui partent à cause de cet impôt. Hein, on n'a pas vraiment de chiffres. On se demande s'il y en a vraiment, d'ailleurs, qui sont partis à cause de cet impôt. Donc voilà. Alors, c'est défendu, donc, par Macron, par Amélie de Montchalin, s'il vous plaît. Elle a gardé la particule, la Amélie. La République En Marche, bien évidemment, qui défend, donc, cette suppression de l'exit tax dans le budget 2018. Voilà. Alors, d'après ce qu'on connaît, ça rapporterait à peu près 803 millions d'euros par an. En tout cas, c'est le chiffre de 2016. Alors, certains élus de La République En Marche disent que ça rapporte beaucoup moins, 60 à 80, voire au maximum 100 millions d'euros. Bon, comme ils n'amènent pas de preuves de leurs chiffres, alors que les 803 millions sont issus du Conseil des prélèvements obligatoires, donc un truc officiel, un organe officiel de l'État, on va plutôt croire l'organe officiel de l'État plutôt que les élus de La République En Marche qui sortent des chiffres sans amener de preuves. Donc bref, il y a l'idée de modifier de supprimer cette taxe de sortie du territoire pour les entreprises et pour les portefeuilles d'action. Bon bref, au final, c'est vraiment une incitation à être exilé fiscal. Parce que une fois que ça sera supprimé, n'importe qui gagne de l'argent avec sa start-up, son entreprise, vous appelez ça comme vous voulez, va pouvoir partir par exemple en Belgique et transmettre son patrimoine sans frais, sans rien, sans taxes, sans rien. Donc voilà, c'est exactement ce que font en fait les GAFA, vous savez, Google, Amazon, tout ça, que critiquent des fois les élus, notamment La République En Marche. C'est exactement ce qui va être proposé à ces start-up françaises. Quand les GAFA le font, c'est mal. Quand les entreprises françaises le font, c'est bien. Alors, pour info, on rappellera quand même une nouvelle fois que l'évasion fiscale, ça coûte très très cher. Entre 60 et 80 milliards par an. C'est-à-dire que c'est plus que le déficit de la France. Donc si les riches étaient honnêtes, la France serait pas en déficit. Bon, si les riches étaient honnêtes, vous me direz, ça serait. Donc c'est juste une nouvelle preuve de l'impact important d'essayer de faire rentrer les exilés fiscaux, les tricheurs fiscaux, que ce soit de la triche ou de l'évasion fiscale légale ou illégale, parce qu'il y a de l'égalité là-dedans, parce que moult lois leur permettent de faire de l'optimisation fiscale. C'est le nom quand l'évasion fiscale est légale. Donc voilà, alors, c'est une nouvelle preuve que Emmanuel Macron est le président des riches et des très riches après la suppression de l'ISF. Donc voilà, c'est juste une marche supplémentaire dans la libéralisation générale de tout, et surtout de cette liberté énorme donnée aux entrepreneurs, aux patrons, de ne pas payer de taxes, de ne pas payer d'impôts, contrairement aux salariés qui, eux, ne peuvent pas échapper, hein, ou difficilement à ces impôts. Et puis, en Macronie, on va toujours plus loin, puisque Bruno Le Maire a annoncé, c'est ça, la loi qu'il prépare, qui s'appellera la loi Pacte, a priori de ce que j'ai compris, peut-être la loi Bruno Le Maire à terme. Donc il va instaurer pas mal de choses pour les entreprises. De nouvelles choses, notamment il va faire sauter le seuil des 20 salariés qui entraînent des obligations sociales et fiscales aux entreprises. Alors je vais rappeler ce que c'est que ce seuil de 20 salariés. Quand on dépasse 20 salariés, l'entreprise est obligée d'avoir un règlement intérieur et de diffuser ce règlement intérieur, notamment relatif à l'hygiène, à la sécurité des salariés. Quand vous êtes à moins de 20, c'est pas obligatoire. Bon, c'est la sécurité et l'hygiène des salariés. Voilà, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, ils n'en ont rien à faire de la santé des salariés. À partir de 20 salariés, on cotise, enfin les entreprises cotisent à hauteur de 0,5% au Fonds National d'Aide au Logement. Alors que pour les entreprises plus petites, c'est 0,1%. Et là, pareil, on ne va pas non plus obliger les entreprises à financer un peu de logement et du logement social notamment. Non. Donc là, on recule aussi. Bon, il y a le 1% logement, hein, pour ceux qui connaissent, qui est obligatoire aussi pour les entreprises de plus de 20 salariés. Il va faire sauter tout ça. Bon, il y a plein d'autres choses dedans. Bref, voilà, c'est un nouveau pas en avant de suppression de cotisations sociales. Donc là, ça va concerner les entreprises de plus de... Enfin, le seuil de 20 salariés va être supprimé. Alors, en attendant que le seuil de 50 salariés lui aussi saute, c'est dans les projets aussi, puisque déjà dans ce nouveau projet de loi, les entreprises qui basculeraient au-dessus de 50 salariés ne seraient concernées par les nouvelles taxes, lois concernant les entreprises de 50 salariés, de plus de 50 salariés, qu'au bout de 5 ans. Donc ça laisse 5 ans de déduction fiscale et autres, de ne pas payer les vraies taxes concernant ces entreprises. Bon bref, c'est voilà, les entreprises vont encore gagner plus d'argent grâce à la nouvelle loi de M. Le Maire, de toute façon qui est un libéral de droite, comme il s'entend.
Alors là, j'ai un sujet qui concerne à la fois la Macronie et l'environnement, si tu veux. Voilà, j'ai appelé ça les profiteurs, comme d'habitude, hein, vous savez que ces sociétés multinationales ou non, d'ailleurs, qui portent le capitalisme bien ancré. On va parler des sociétés d'autoroutes. Ah, bah oui. Alors, c'est dans les Échos que j'ai lu ça. Non, je vous le dis, j'ai...
Des lectures de droite, un peu.
Voilà, bah des fois, écoute, il faut bien lire. Alors, qui m'a amené à réfléchir à d'autres choses, les Échos nous parlent des sociétés d'autoroutes qui reviennent à la charge pour essayer de faire un peu plus de profit. Je m'explique. Alors, les Échos ne présentent pas comme ça.
Elles font déjà énormément de profit.
C'est l'association qui représente le secteur, l'ASFA. Alors le secteur, on a les filiales des FAGE, Vinci, on connaît, SANEF, voilà.
C'est une sorte de syndicat patronal des autoroutes.
C'est syndicat d'entreprise, même pas patronal, si tu veux. D'abord, on se met d'accord. On est dans le lobby, là. Comment aller approcher les ministres? C'est à ça que sert l'ASFA. Pourquoi? Parce que Madame Borne, Elisabeth, on va bien la fréquenter dans les mois qui arrivent, quand même, il faut savoir, puisqu'il y a une loi d'orientation sur les mobilités, dont nous allons bientôt tout savoir, d'ici la fin de mai, paraît-il, pour le printemps. Alors, dans cette loi d'orientation sur les mobilités, les Échos ont la gentillesse de me rappeler que la priorité est donnée au transport du quotidien. Qu'est-ce donc le transport du quotidien?
C'est quand vous allez bosser.
Non, mais c'est dans... C'est le vroom vroom. Oui. La route, non, la voiture.
C'est un peu les TER aussi, le transport du quotidien.
Oui, mais
ou le vélo.
Les sociétés d'autoroute,
oui, c'est pas ça.
Le transport du quotidien, c'est la route, c'est la bagnole, il faut bien le dire. Mot que voiture, les Échos n'emploient pas, bien évidemment, on parle de route, en particulier pour maison-travail. Donc là, les sociétés se disent, avec cette loi d'orientation sur les mobilités, il y a un coup à jouer. Parce que on a des autoroutes qui sont pas forcément en très très bon état dans certains endroits, parce qu'elles sont parfois gérées par ces sociétés privées, et puis il y a quelques gestions quand même en direct. Et là, il y a normalement de la rénovation aussi à mettre en place. Alors, ce qui est bien avec les entreprises de ce calibre, c'est qu'il y a une bonne préparation quand même dans le lobbying. Donc là, l'idée, c'est de dire, dans cette loi d'orientation sur les mobilités, il doit y avoir des développements de certaines pratiques, et donc pour ça, il faut installer les choses. Il faut par exemple des parkings pour le covoiturage, parce que sinon, c'est pas pratique, donc tout ça, c'est au niveau des péages. Il faut des lignes pour les autocars. Comme ça, ça aussi, ça ira plus vite pour les déplacements, pour aller au travail, c'est vachement mieux. Il faut développer tout un tas de choses. Et donc, pour aller plus vite, les sociétés d'autoroutes se proposent de réaliser ces aménagements.
Contre, bien sûr, de l'argent.
Ah bah non. Ce que tu penses bien qu'il y a mieux que l'argent. Il y a des bouts d'autoroute.
Et oui, des redevances supplémentaires.
Et du pognon à venir. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on va donner. Alors, il y a un calcul qui est fait par l'ASFA, à peu près 600 km d'autoroute, qui, comme ça,
en échange,
pourraient être transférés pour que certains équipements soient bien faits. Je vous rappelle que Vinci et Fage savent bien construire des petits équipements par. Il n'y a pas que la route. Donc, c'est l'idée de faire un peu fonctionner toutes les filiales. C'est bien fait quand même, c'est au niveau de la stratégie du développement de ces entreprises, de ces multinationales pour le coup. Donc c'est assez bien fait. Parce qu'il faut savoir que tout ça, ça va aider le gouvernement à dire, regardez, on modernise nos équipements routiers qui ne sont pas très bons.
Ça ne nous coûte rien, puisque c'est eux, c'est les FAGE et les autres qui vont investir.
Alors, Je dis ça, mais pour l'instant, on n'est pas sûr que le gouvernement accepte. Hein, parce que déjà, sous Sarkozy et sous Hollande, ça n'arrêtait pas d'attaquer pour avoir un peu plus quand même, toujours plus, ça fait Sarkozy, c'est lui qui a lâché hein, le morceau quand même, il faut le dire. Mais en tout cas, les entreprises et les sociétés d'autoroutes sont toujours là pour arriver à avoir un peu plus encore de péage à nous mettre, hein, donc de kilomètres d'autoroute. Et parallèlement, donc, dans cette loi d'orientation sur la mobilité, il y a la question de créer une agence des routes. L'idée, c'est d'avoir un établissement public qui serait baptisé Route nationale de France, dans lequel les directions interdépartementales, je vais y arriver, des routes seraient réunies, ce qui permettrait de gérer, il paraît, plus efficacement à la fois le réseau, de pouvoir mieux le moderniser, et puis de gérer les autoroutes qui sont non concédées. Il paraît que ça serait vraiment très très pratique, tout ça, mais c'est pareil, là aussi le gouvernement réfléchit à créer cette route nationale de France, qui risque au final de quand même de pas trop arranger l'ASFA, parce que est-ce que ça pourrait pas permettre de récupérer de l'autoroute, plutôt que d'en donner des nouveaux bouts aux sociétés d'autoroute pour la privatisation et le profit privé. C'est la question, mais moi j'y crois pas trop, hein. Je crois qu'on est quand même dans la partie de la Macronie où on va continuer à faire des cadeaux aux entreprises et aux patronats, et donc peut-être bien lâcher ces 600 km d'autoroute qui sont réclamés, mais tout ça dans le cadre de la loi, pour notre bien-être, pour notre confort, une belle modernisation. Ça serait bien vu quand même pour le développement économique. En plus, ça fait travailler Vinci, qui peut embaucher des personnels, tout ça, au noir. Donc
pas toujours,
voilà,
bon,
pas
arrête.
Toujours, mais bon, il paraît que c'est pas leur faute, que c'est la faute des sous-traitants. Voilà, enfin, les profiteurs sont des vrais lobbyistes et sont en train de se mêler de toutes les petites lois que la Macronie est en train de nous proposer.
On va faire une petite rubrique énergie-environnement maintenant, avec un premier sujet autour de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui il y a quelques semaines avait accusé EDF, on en avait parlé, de sous-utiliser son parc nucléaire pour faire remonter le prix de l'électricité. En fait, quand les prix du marché sont supérieurs à 40 euros le mégawatt, le taux d'utilisation du parc EDF a été constaté étant de 95%, d'après ce qu'a constaté UFC Que Choisir, alors qu'il est que de 83% lorsque le prix de l'électricité est à 12 euros par mégawatt. Donc l'UFC Que Choisir avait naturellement conclu que EDF réduisait sa production quand le marché de gros de l'électricité était bas et l'augmentait quand ce qui faisait du coup remonter les prix et etc. Enfin jouer sur le marché. Ils avaient estimé d'ailleurs que grâce à ça EDF faisait rentrer 3,2 millions d'euros supplémentaires dans ses caisses. Il joue avec le prix, après, bien sûr, vous le payez, vous. Donc, EDF estime que l'association de consommateurs UFC Que Choisir s'appuie sur un raisonnement économique erroné qui ne tient pas compte, je cite, de la réalité du marché de gros, marché européen interconnecté basé sur la rencontre de l'offre et de la demande. Voilà les termes d'EDF. EDF indique optimiser à tout moment l'utilisation de son parc en interaction étroite avec les marchés européens en vue de satisfaire la demande d'électricité et non pas en vue de gagner plus d'argent, bien évidemment. L'entreprise rappelle qu'elle agit sous la surveillance permanente de la Commission de régulation de l'énergie. Bon, bref, conséquence, EDF a porté plainte contre l'UFC Que Choisir pour diffamation. Alors, ça démontre l'attitude habituelle d'EDF, hein, qui est agressive. Au lieu de dire, ok, vous nous accusez, nous, on refait un communiqué de presse en démontrant ce qu'on dit. Parce qu'il démontre rien, là, actuellement. Il dit juste, c'est de la diffamation. Ils auraient démontré, regardez, c'est le hasard que on baisse la consommation quand le prix est pas cher. Et ils auraient pu le démontrer, si c'était vrai. Or, ils ne démontrent rien, ils déposent plainte. Ils sont très gros, UFC Que Choisir est un peu moins gros, donc voilà, c'est le David qui essaye d'écraser Goliath. Non, c'est l'inverse. C'est Goliath qui essaye d'écraser David, et on espère que l'UFC David Que Choisir résistera. Voilà, bref. On parlait un petit peu de qualité de l'air. En ce moment, il y a une réunion de l'ONU pour préparer la COP24 qui aura lieu en Pologne, un des pays les plus pollueurs d'Europe, on le rappelle, au niveau du CO2 en tout cas, et au niveau de plein de choses, pour essayer de réduire, de faire que l'accord de Paris sur le climat serve vraiment à quelque chose. Pour l'instant, on est très très loin d'avoir un accord qui tienne la route. En marge de tout ça, l'Organisation mondiale de la santé a fait son rapport sur l'état de l'air ambiant de la planète Terre. Je vous donne juste quelques conclusions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le rapport de l'OMS qui a été publié hier nous dit quoi ? La pollution de l'air représente un risque environnemental majeur pour la santé. En diminuant les niveaux de pollution atmosphérique, les pays peuvent réduire la marge de morbidité imputable aux accidents vasculaires cérébraux, aux cardiopathies, aux cancers du poumon, aux affections respiratoires, chroniques ou aiguës, y compris l'asthme. Alors c'est pas nouveau, hein, ils vont plus loin que ça, ils disent par exemple le cancer du poumon, alors chez nous, l'impact, la pollution de l'air a un impact relativement faible sur le cancer du poumon. Mais des pays, des villes comme l'Inde, par exemple, en Inde, enfin certaines villes en Inde, en Inde où il y a les villes les plus polluées du monde. Hein. Le cancer du poumon lié à la pollution de l'air irait jusqu'à 30% des cancers du poumon. D'habitude, hein, c'est la cigarette. Chez nous, c'est très faible l'impact de la pollution de l'air là-dessus. Mais pas négligeable non plus. Hein. Mais là, il y a des endroits où c'est pire. Ils nous disent aussi que la santé cardiovasculaire et respiratoire de la population, à court et long terme, est inversement proportionnelle au niveau de pollution atmosphérique. Donc bref, on diminue la pollution atmosphérique, on diminue donc les maladies, on augmente l'espérance de vie des gens, grosso modo. Ils expliquent aussi que 91% de la population mondiale vit dans des endroits où les directives de l'OMS ne respectent pas la qualité de l'air. Alors c'est beaucoup, mais on rappelle que Lyon a des pics de pollution réguliers qui ne respectent pas les normes de l'OMS. Hein, on n'a pas besoin d'aller en Inde, dans des villes où c'est irrespirable. Lyon est irrespirable régulièrement, au vu, si on parle des normes que l'OMS n'impose pas, mais dit qui sont dangereuses pour la santé. L'OMS estime donc à 4,2 millions de morts prématurées chaque année à cause de la pollution ambiante. On rappelle que le chiffre, comme j'ai dit en introduction, est à peu près de 48 000 en France chaque année. Alors il y a des pays, et c'est notamment le cas des pays en développement ou les pays pauvres, vous les appelez comme vous voulez, c'est eux qui sont le plus concernés par la pollution, même si les grandes villes occidentales le sont. Alors ça dépend des mesures qui sont prises, par exemple le Japon échappe, puisqu'ils ont pris des mesures contre le diesel, alors que nous on n'a pas pris des mesures pro-diesel depuis des années, du coup on a plus de mortalité liée à la pollution de l'air que à Tokyo, qui est une mégalopole nettement plus importante que Lyon par exemple, et qui pourtant ne dépasse pas les seuils de pollution, alors que Lyon les dépasse tout le temps. Voilà, il y a plein de choses dans ce rapport qui sont ultra alarmantes sur la qualité de l'air. Enfin, le fait que 91% de la population mondiale vit dans des endroits où il y a des dépassements des normes de l'OMS, c'est quand même un truc pas rassurant. Et puis pour terminer ces infos environnementales, on va parler du Titanic nucléaire. Alors on avait parlé il y a quelques années, parce qu'il y avait un projet de la part de Rosatom, donc entreprise quasi publique russe, enfin publique oui, russe, qui est dans le nucléaire, qui avait comme projet de fabriquer des centrales nucléaires qui flottent sur l'eau. Et bien ça y est, c'est triste, mais ça y est, la première centrale nucléaire flottante est prête. Elle s'appelle l'Académic Lomonosov. C'est une sorte de bateau à fond plat qui est une centrale nucléaire. Alors, elle est à Saint-Pétersbourg. Elle vient de quitter le port de Saint-Pétersbourg. Alors, pour l'instant, elle n'est pas chargée en combustible. Alors, il faut savoir que la Norvège s'oppose au chargement en combustible autour de ses frontières. Du coup, la Russie a emmené cette centrale nucléaire flottante un peu plus loin et va la charger en combustible nucléaire. Ça soulage aussi les 5 millions d'habitants de Saint-Pétersbourg, hein, qui avaient un peu peur du truc. Il faut savoir que c'est une région où la mer a été polluée moult fois par des accidents nucléaires, notamment dans des sous-marins, entre autres, sous-marins russes. Voilà. Alors ce qui est pas rassurant, c'est que si ça fonctionne à peu près, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas non plus une centrale nucléaire sur l'eau. Enfin, quoique, ça va avoir. Ça risque de se développer, et il y a pas mal de pays, comme la Chine, l'Algérie, l'Indonésie, des pays qui sont pas toujours fiables, qui sont intéressés par cette technologie nucléaire sur l'eau, alors qu'il y a moult alternatives non nucléaires, bien évidemment, faire de l'électricité. Alors, comme le rappelle un des responsables de Greenpeace pour l'Europe, ces navires sont à fond plat, c'est-à-dire qu'ils sont très sensibles aux tsunamis, aux cyclones, aux grosses vagues, à tout ça. Que se passerait-il si jamais il se renverse, il coule, etc. Voilà, c'est un risque nucléaire supplémentaire énorme que met en œuvre Rosatom. On va espérer que ça ne marchera pas et que ça ne se développera pas. Voilà, pour la santé de l'ensemble de la planète. Tu nous parles un peu de téléchargement et de streaming ?
Oui, alors c'est pour finir, parce qu'en fait c'est une info qui date un petit peu maintenant, mais qui n'est absolument pas périmée. C'est ça qui est bien avec le ministère de la Culture et Madame Nissen, c'est que rien ne se périme, en même temps elle ne fait pas grand-chose.
Mais... Et puis quand elle fait, ça ne va pas dans le bon sens.
Oui, c'est pas terrible. En tout cas, elle s'était fait tomber dessus par la filière cinéma, avec 13 organisations représentant cette fameuse filière, et accompagnée de Canal+, M6 et TF1, tout ce joli petit monde demandant une vraie lutte contre le piratage des films et des séries sur des sites de téléchargement illégaux sur Internet.
Bon, classique, là.
Classique. Mais c'est vrai que ça s'énervait un petit peu ces derniers temps. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a eu un petit peu une fronde là dans le cinéma, puisque jusqu'à avant Cannes, normalement, il y a un petit cocktail au ministre, vous voyez, avec la ministre, histoire de se préparer, elle est cocktailisée dans le sud. Il y a beaucoup qui ont dit, ben oui, on viendra pas.
On
boude. C'est exactement ça. D'autres ont eu des éléments un peu plus militants pour certains metteurs en scène ou comédiens, comédiennes. Mais en tout cas, sinon, c'est vrai que du côté de la profession, on a un peu boudé. Alors, pour enlever toute ambiguïté, Madame la ministre a annoncé, c'était le mercredi 18 avril, qu'elle avait un super plan méga génial, qu'elle ait donc sauvé le cinéma en France. Plus les télés, plus les diffuseurs, enfin tout le monde quoi, dans la filière. Elle a un super plan parce qu'elle va faire une liste. Mais attention, la liste elle va être noire.
Oula, des méchants sites de téléchargement.
Oui, ça serait donc des méchants sites, c'est dur à dire, dites donc, de téléchargement de tout ce que vous voulez, de musique hein, aussi, bien évidemment, de cinéma et de série, puisque là, c'est cette interpellation à laquelle elle répond, qui va donc être faite par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la fameuse Hadopi, que nous connaissons bien, qui date de 2009, hein, quand même, il faut s'en souvenir. Elle a donc dit qu'elle allait faire une liste noire, parce que, évidemment, Hadopi, comme on le dit depuis le début, vise le peer-to-peer.
Hein, oui, parce que c'est facile tactiquement à viser.
Mais
le direct download, c'est plus compliqué.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans tous ces petits propos, la Madame Nissen, elle parle surtout du streaming comme étant ça maintenant qu'il faut attaquer parce que c'est le piratage serait sur 80%.
C'est vrai, en streaming maintenant.
En streaming. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand ils ont fait tomber le zone téléchargement, ils étaient très fiers.
Alors que c'était pas du streaming, c'était du direct download.
Du téléchargement direct. Ouais. Donc, je traduis pendant que tu le fais. En English. Et donc, elle s'est dit streaming, streaming, streaming. On sent que la Nissen, là, elle essaie d'être aussi un peu sur la brèche. Donc, elle parle beaucoup de ça. On se doute que les DDL seraient aussi, bien évidemment, visés, puisque je vous rappelle que le problème, c'est que ça va très, très vite du côté des sites dits illégaux, puisqu'il y a un zone téléchargement qui s'est reconstitué. Il y a d'ailleurs des sites avec la même appellation, des écritures différentes, des localisations différentes qui sont apparues. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que le blocage, il va devenir extrajudiciaire, puisqu'il y aura une décision du gouvernement à travers l'Hadopi de bloquer tel site, tel site, tel site.
Du coup, c'est une vraie
c'est plus
possibilité.
C'est plus demande des ayants droit.
Voilà,
tu vois.
C'est de la censure, du coup. Ça passe pas par la justice, donc on peut dire on va bloquer ça et ça. Ils pourraient bloquer tout ce qu'ils veulent, finalement.
Alors, déjà, je peux vous dire que chez les geeks, ça se marre. On vous rappellera que mettre un VPN peut vous permettre d'éviter des blocages.
Quoique la Chine a montré qu'avec la politique anti-VPN, on peut aussi bloquer les VPN.
Oui, bon.
On n'en est pas là.
On n'en est pas là. Il y a l'idée aussi, donc, de bloquer ou de déférencer. Déférencer, ça veut dire que vous allez. Oui, j'ai dit j'ai oublié une. Ouais. C'est ça.
Déférencer.
Je vais y arriver. Déférencer. Non, j'y arrive toujours pas. Eh ben, on va te laisser tomber. Donc, l'idée, c'est d'enlever sur un moteur de recherche le fameux site, c'est-à-dire que vous allez.
Ce qui est...
Sous le machin très connu, vous tapez zone téléchargement et vous ne pourriez plus le trouver.
Ce qui est déjà le cas de sites de téléchargement sur Google, puisque tu voulais parler du très connu. Et effectivement, Google bloque certains sites qui sont déclarés comme ça, mais par les instances américaines.
Sauf plutôt. Que l'URL, une fois que tu l'as...
Voilà. Et puis, ben, y a d'autres moteurs de recherche, de toute façon.
Et puis, voilà. Donc, rien n'est simple. Et puis, on se doute bien que il va se passer ce qui se passe depuis le début, c'est-à-dire que ben, les sites se remontent, vont changer, vous savez, leur petite extension après le point, vont juste changer trois lettres d'un côté, rajouter de l'autre, et tout ça se remonte. Et puis, surtout, ben, comme il y a du profit à faire derrière avec ces sites, rappelons qu'il y a des gens qui font du profit, hein, quand même. Y a des, on est sorti de
sur
l'ère des passionnés depuis maintenant bien longtemps. Donc il va y avoir des tas de solutions qui vont aller très très vite contre cette liste. Tout le monde se demande combien de temps une liste peut tenir avant d'être obsolète, puisque des nouveaux sites vont apparaître. Ça va être remarquez que ça va faire bosser la dopie quelque part, hein, parce qu'il va y avoir des gens qui vont être chargés de faire ce travail-là. Mais voilà, c'est Madame Nissen, on la sent un petit peu dans l'urgence de devoir faire quelque chose, d'agir vite. Donc, au lieu de nous proposer de la création, elle nous propose de la censure. Pour un ministère de la Culture, c'est quand même assez symptomatique qu'on est bien en Macronie.
Enfin, oui, surtout qu'elle n'a rien fait vraiment pour la création jusqu'à maintenant. Quoi.
Non, non, pour le développement, quand elle nous propose de juste nous trimballer les trucs parisiens en région, au-delà du fait que ça se fait déjà, c'est pas super bien pour la création dans nos villes respectives. Pour l'instant, on peut pas dire que pour la création, moi je trouve, elle fasse grand chose. Elle va pas rester, je pense, dans l'histoire du ministère de la Culture. Mais enfin, il lui reste encore quelques temps pour agir, hein, à quelques années, pour montrer que la culture peut être protégée des attaques politiques et des baisses de budget, et qu'on peut aller à l'essentiel, c'est-à-dire permettre à des gens de créer, de diffuser, de montrer et de vivre de leur travail, bien évidemment.
Donc il est 20h01, passé sur la plus rebelle des radios, il est l'heure d'arrêter ce Canu Info. En théorie, il y a une rediffusion de Papillon, on va attendre qu'ils arrivent, sinon on va vous laisser en attendant une hypothétique diffusion de Papillon avec les bandes continues de la plus rebelle des radios. Rendez-vous demain pour le prochain Canu Info.
Avec une autre équipe.
Voilà, et nous, vous pouvez nous réécouter sur le blog de Canu Info du jeudi.
Vous nous écoutez tout court.
Vous nous écoutez
là,
tout
donc
court.
Vous venez peut-être
de le faire déjà.
De nous écouter en décalé.
Et donc voilà, passez une bonne semaine, un bon week-end quand ça arrive. On a un peu encore demain, mais voilà. Et à bientôt.
Ciao, ciao. Bonne soirée à tous et toutes.
Bye bye.